Peut-être je passe la parole maintenant à Carole Lémarie, qui est psychologue clinicienne, membre de l'EPFCL, et qui finalement a repris le titre général pour son titre particulier. Finalement, c'est ça.
Avec un point de progression.
Ah, pardon. Donc, voilà, inégalité des structures, point d'interrogation.
Oui, point d'interrogation, puisque justement ce titre en a posé question. C'est-à-dire qu'à la fois, est-ce qu'on peut parler d'inégalité, mais déjà, de quoi on parle, on parle de structure. Donc je me suis interrogée là-dessus en essayant de voir ce que je pouvais essayer d'en dire, en tout cas des structures, en suivant l'enseignement de Lacan. Alors c'est vrai que dès sa thèse de médecine, Lacan pose clairement que la psychose n'est pas déficitaire. Il utilise une petite formule qui dit qu'on ne peut pas comparer, je cite, une statue polynésienne comparée au canon classique d'une statue grecque. Donc on y voit là d'emblée posé le fait que la norme supposée par le bien connu du classicisme avec la statue grecque, la névrose donc, on ne peut pas la comparer donc aux statues polynésiennes qui représentent des ancêtres. Un peu plus fort. Donc, on ne peut pas les comparer donc, aux statues polynésiennes qui représentent des ancêtres divinisés et là, la signification reste encore énigmatique, les psychoses. Donc, dès le départ, Lacan avait cette idée de ne pas partir de nos repères habituels pour comparer ce qui nous est plus étranger, c'est-à-dire tout simplement que nous ne pouvons pas comparer des choses différentes. Par contre, on peut essayer de dire ce qui les différencie. Alors, avant de voir ce qui les différencie, les structures, a priori. Donc je vais partir déjà de ce qui leur est commun, disons de ce qui vaut pour tous, pour tous les êtres parlants. Donc c'est déjà le fait même d'être, le parlant faisant l'être, autrement dit, les incidences du fait d'entrer dans le langage, quelle que soit la modalité du parler. Donc dans Fonction et champ de la parole et du langage, en psychanalyse en 53, Lacan place l'inconscient et le désir en référence à la fonction de la parole et au champ du langage. À cette époque, il formule qu'inconscient et désir se révèlent par la parole et que celle-ci est un don du langage, c'est son terme. Alors, là où Freud a découvert avec ses patientes hystériques qu'il y a un désir inconscient qui se révèle par la parole, nous pourrions dire avec Lacan que si le désir se révèle par la parole, c'est que c'est par elle qu'il s'est constitué. La parole étant à cette époque pour lui donc don du langage, cela reviendrait à dire, selon ce que j'en comprends, que le sujet prend quelque chose du langage déjà là, pour parler, et que l'entrée même dans le langage implique le désir. Et Lacan précise, toujours en 53, je le cite, que « nous voici donc au pied du mur du langage. Nous y sommes à notre place, c'est-à-dire du même côté que le patient. Et c'est sur ce mur, qui est le même pour lui et pour nous, que nous allons tenter de répondre à l'écho de sa parole. » Donc, il reviendra sur ce mur du langage en 72, où il fait allusion à ce truc, comme il dit, qu'il a trouvé dans un calendrier intitulé Paris en l'an 2000, et que l'on connaît bien maintenant, donc avec cette citation que je vous redonne. Entre l'homme et la femme, il y a l'amour. Entre l'homme et l'amour, il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est un mur pour tous, donc, analyste y compris. Donc de retour à Rome en 67, il revient sur son premier discours de 53, en précisant, je cite, que c'était « interroger la pratique et renouveler le statut de l'inconscient dont il s'agissait ». Donc renouveler le statut de l'inconscient, c'est ce que Lacan ne cessera de faire en lien avec les questions du langage. De l'inconscient structuré comme un langage à l'inconscient réel, dont l'effet du langage en inscrit la marque dans le symptôme, Lacan passe également de la structure langagière à la structure du noboroméen ainsi qu'à la structure du discours. Je fais donc un saut un peu rapide pour en venir tout de suite à sa troisième intervention à Rome en 1974 pour poursuivre sur ce renouvellement du statut de l'inconscient en lien avec le langage et sa redéfinition donc des structures. Alors je le cite. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est l'énoncé de ce qui opère effectivement dans votre parole quand vous vous situez du discours analytique, quand analyste vous l'êtes. Mais il n'émerge, ces termes, vraiment que pour et par ce discours. Je n'ai pas eu à y mettre d'intention, je n'ai eu qu'à suivre moi aussi. Donc Lacan constate que les trois consistances, que sont réelles, symboliques et imaginaires, n'émergent que dans le discours analytique, et que c'est en s'y référant que l'on peut s'y repérer dans notre pratique. Or, quand nous sommes dans le discours analytique, c'est de l'objet A dont il s'agit, en place centrale du nœud des trois consistances. Je poursuis donc avec citation de Lacan, toujours dans la troisième. Donc, il parle de l'objet A, il dit « c'est ça ». Ce qui s'attrape au coincement du symbolique, de l'imaginaire et du réel comme nœud. C'est à l'attraper juste que vous pouvez répondre à ce qui est votre fonction, l'offrir comme cause de son désir à votre analysant. C'est ça qu'il s'agit d'obtenir. Donc j'en reviens à ma question de départ, à savoir ce que nous pouvons dire des structures cliniques. Repérer la structure d'un sujet ne peut se faire que dans le cadre d'une cure, dans le cadre du discours analytique donc. Discours qui ne se donne qu'autour de cette place occupée par l'analyste, d'objet-cause et qui fait causer. Or, nous pouvons repérer des différences à partir des énoncés du sujet et de l'au-delà des énoncés qui font signe de la façon dont il a fait son entrée dans le langage et de son rapport singulier à l'objet A. Ce repérage implique nécessairement l'analyste s'il y est à sa place. Ce qui est commun à toutes les structures, au-delà des singularités, tourne autour de la parole et du langage. Donc en prenant pour fil conducteur les trois interventions de Lacan à Rome, c'était pour interroger ce qu'il avait déjà posé des trois consistances des 53, de la fonction de la parole, notre seul médium, comme il dit en 53, du rapport à l'objet-cause du désir, qu'il n'avait pas encore appelé à cette époque la petite, et du mur du langage. Alors ce que j'en comprends aujourd'hui dans cette évolution, de 53 à 74, tout d'abord, c'est que ce mur du langage qui existe pour tous et duquel nous sommes tous du même côté, c'est celui qui nous sépare du réel. Ensuite, que celui-ci, donc le mur qui nous sépare du réel, serait l'objet A. C'est ce que c'est l'hypothèse-là. Et que la question du repérage de la structure serait celle de savoir où se situe le mur dans l'analyse. Ce que je note encore, c'est que Lacan, partant des structures cliniques freudiennes et psychiatriques de son époque, nous amène à les repenser dans leur fondement même, avec l'idée que la psychose n'est pas plus déficitaire que la névrose, au sens où nous sommes tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que l'objet A existe pour tous. Alors je poursuis maintenant sur la question des inégalités. Je propose une définition tirée de l'Observatoire des inégalités, qui est un organisme indépendant, fondé en 2003, constitué d'un comité scientifique avec des philosophes, des sociologues, des économistes. Et donc il propose une définition des inégalités, je vais vous la citer, c'est Louis Morin qui la propose précisément, qui dit donc que, et qui nous permet de sortir bien sûr de l'idée que l'inégalité est ce qui n'est pas égal, qui est la définition du dictionnaire. Donc il dit que quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, sous-entendu, et qu'une partie des autres ne détient pas, nous pouvons alors parler d'inégalité. Et il précise juste après qu'une différence n'est pas une inégalité. Elle ne devient une inégalité que lorsque ce dont on parle peut être hiérarchisé. Alors partant de cette définition, qu'une différence ne devient une inégalité que lorsque ce dont on parle peut être hiérarchisé, on voit tout de suite que cela semble difficilement pouvoir s'appliquer aux structures cliniques. Parce que qu'est-ce que nous pourrions hiérarchiser ? Si ce qui définit une structure est la modalité de réponse aux effets du langage de chaque sujet ou un par un, alors nous ne pouvons pas parler d'inégalité. D'autant moins si nous partons du principe que la causalité de cette réponse reste une option éthique, cette insondable décision de la tricomédiaque, dont on ne connaît pas l'origine. Donc cette réponse, on ne peut rien en dire, elle est singulière. Si l'on considère qu'il s'agit d'une option, c'est donc d'un choix, et donc pas de hiérarchisation quant à ces choix. Pas de hiérarchie entre la statue grecque et la statue polynésienne, en effet.
Bon, c'est... Vous voyez un peu autour des choses, autour de quoi on tourne. Cet ensemble, on fait des cercles concentriques. On va quand même pouvoir ne pas débattre sur cette question de l'inégalité et de la hiérarchie. D'où vient la hiérarchie? Ça, c'est pas dit hein, dans votre exposé, mais vous me direz tout à l'heure, peut-être.